l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Gourdon, 104.8.
Bonjour à toutes et à tous, 12 heures passées d'une poignée de secondes à la pendule de Présence. Merci de nous rejoindre sur l'ensemble des fréquences du Midi Pyrénéen. Nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures, c'est le Présence Midi. Très très bon appétit, très belle journée avec en tout cas ici sur Lourdes, le soleil qui brille, je me permets de vous le partager. Au sommaire de l'heure que nous allons passer ensemble, dans quelques instants, nous allons parler alimentation et plus particulièrement l'alimentation en circuit court. Ce sera le sujet de la chronique verte de Benoît Guillard. Nous parlerons littérature, évidemment, avec le frère Martin de l'abbaye de Tournaille, dans les Hautes-Pyrénées. Ce sera une rediffusion aujourd'hui. Nous parlerons évidemment information avec les informations de Éric Leclerc et la chronique solidaire de Anne Deslois nous amènera à la rencontre de Christophe Mansou. Et enfin, nous terminerons cette heure passée ensemble avec un auteur qui a cheminé sur les chemins de l'Occitanie ça lui a plu, et en l'occurrence aujourd'hui, ce sera George Sand. Nous serons en compagnie de Catherine Albrecht. Voilà les différents sujets que nous allons aborder au cours de l'heure que nous allons passer ensemble et que je vous propose de débuter avec les titres des informations de ce vendredi 24 octobre 2025, des titres qui nous sont présentés par Éric Leclerc.
Incarcéré depuis le mois de septembre en Russie, soit 45 jours, le lotois Sofiane Sihili vient d'être libéré. Il avait été récemment condamné pour avoir franchi illégalement la frontière russe alors qu'il circulait à vélo. Parti début juillet à vélo depuis Lisbonne, il souhaitait traverser 17 pays pour atteindre Vladivostok. Le calme est revenu après le passage de la tempête Benjamin hier sur la France. L'Occitanie n'a pas été épargnée, arbres couchés sur les routes, aucun trafic de train entre Brive-la-Gaillarde et Rodez, train circulant au ralenti entre Pau et Tarbes. Certaines villes avaient fait le choix de fermer les parcs par mesure de sécurité. Le vent a soufflé fort par endroits, comme à Tarbes, une rafale à 100 km/h. On connaît depuis hier le programme qui attend les coureurs du Tour de France l'année prochaine. Les coureurs passeront dans notre région entre le 6 et le 9 juillet avec 4 étapes. Lundi 6, Granollers en Catalogne-les-Angles. Mardi 7, Carcassonne-Foix. Mercredi 8, Lannemezan-Pau. Et jeudi 9 juillet, Pau-Gavarnie-Gèdre.
Merci Éric Leclerc. Retour de l'information sur Présence dans une demi-heure.
Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
La chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, nous débutons une série consacrée à l'alimentation et plus particulièrement au circuit court qui nous permettent de nous alimenter de manière un peu plus éthique.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons pour cette semaine à nouveau dans le cadre de l'émission La Chronique Verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, et pour un certain nombre de semaines, j'ai fait le choix d'aller à la rencontre d'un certain nombre de témoins autour d'une thématique que j'ai choisie qui s'appelle alimentation, circuit court et circuit de proximité. Et donc j'irai au fur et à mesure des semaines à la rencontre d'un certain nombre de témoins. Et aujourd'hui, je suis donc à Ségus. J'étais venu déjà il y a un an maintenant, pratiquement déjà, rencontrer Aurélien. Et donc, je reviens voir Aurélien Bon, simplement parce que j'ai été interpellé à la fois par sa démarche, par l'esprit, son engagement, projet de vie et son projet de foi aussi. Et puis également parce que je suis très sensible au travers de l'émission que nous avons menée aussi pour présenter le projet de l'Assomption, très sensible au projet qui se développe sur le centre Assomption de Lourdes. Donc je suis à Ségus, petit village, à quelques kilomètres de Lourdes. Et Aurélien donc est un maraîcher. Mais il va se présenter un tout petit peu plus juste après. Juste pour introduire cette émission et un petit peu dresser le décor, j'ai envie de vous faire part de quelques réflexions. D'abord, vous dire que chaque crise amène les consommateurs et les agriculteurs vers les circuits courts. On observe que le développement des circuits courts est souvent inversement proportionnel à la présence des coopératives sur nos territoires. Ces formes traditionnelles de circuits courts, que sont les marchés de plein vent et les ventes à la ferme, sont tout de même de plus en plus importantes aujourd'hui. D'autres formes sont apparues récemment, comme les AMAP, bien sûr, les magasins de producteurs. Et avec le Covid, on a bien vu que les circuits courts ont bénéficié de cette crise. Si les circuits courts ne vont pas remplacer les circuits longs, et ça, certes, c'est un propos que je ne peux que constater, on peut quand même avancer sans idéologie et de façon pragmatique qu'il faudra quand même développer davantage les circuits courts dans le but de rééquilibrer à la fois la production au niveau global mais aussi et surtout au niveau local afin de mieux résister et d'avoir une plus grande résilience par rapport aux crises qui s'accumulent à nos portes, qu'elles soient notamment climatiques, économiques, sociales. On est fragile à être trop dépendant des circuits courts et ces circuits courts ils sont très peu aidés financièrement. Ils ont peu de moyens, mais ils ont toujours été très inventifs. Alors bonjour Aurélien, peut-être juste quelques mots sur qui êtes-vous, un petit mot sur aussi votre projet de vie et projet de l'unité maraîchère que vous menez.
Bonjour Benoît, bienvenue à nouveau au Jardin de l'Aigle-Vive. Alors, moi je suis Aurélien, je suis installé en maraîchage sur Ségus depuis 2021. Donc ça, je finis la cinquième saison. Chaque saison est très différente depuis cinq ans. Je suis installé sur un projet qui s'appelle le Hameau Graines d'Espérance, dont je passe un peu les détails, mais qui est un projet d'accueil à long terme, d'accueil en personnes en situation de fragilité. Et donc mon projet a vocation aussi à être en lien et à avoir des ponts avec ces projets d'accueil. Donc je cultive un peu plus de 5000 m², donc un demi-hectare, en maraîchage qu'on pourrait appeler sur sol vivant, que certains pourraient appeler en permaculture. Donc l'idée de ne pas mécaniser le travail, de n'utiliser aucun traitement, ni pesticides, ni herbicides, ni engrais, utilisant des produits de synthèse et allant même jusqu'à refuser les produits utilisables en agriculture biologique à partir du moment où ce sont des produits qui tuent ou qui viennent de loin ou qui détruisent une partie de l'environnement pour venir servir notre production locale. Voilà, et donc on essaie d'avancer avec ça, avec une réalité économique quand même dans l'idée de vivre de notre métier, et c'est là que du coup arrivent les circuits courts.
Alors justement Aurélien, les circuits courts, donc vous êtes partenaire du projet de restauration du centre Assomption. Peut-être, on avait présenté un petit peu la journée qu'organisait le centre Assomption là, à cette occasion, peut-être nous dire deux mots sur ce que ça représente pour vous d'abord, ce projet, et en quoi finalement ça répond un petit peu à vos attentes et à vos besoins en tant qu'homme et en tant que maraîcher.
Alors le projet de l'Assomption, qu'est-ce que ça représente pour moi? Vous disiez Benoît que les circuits courts ne remplaceront pas les circuits longs. Moi j'ai cet espoir quand même que si, et je pense que c'est des choix politiques qui peuvent être assez vite posés. On a aujourd'hui tous les chiffres de comment pourraient être redistribués par exemple les subventions ou des systèmes de sécurité sociale alimentaire. Enfin, voilà, aujourd'hui il y a plein de choses qui existent. Et après, il y a aussi des productions qui sont très localisées dans certaines zones du monde et qu'on ne pourra pas tout de suite faire pousser du cacao à Ségus. Donc on aura encore besoin de certains circuits longs, mais s'ils sont vertueux, ils peuvent rester positifs. Et donc dans ce cadre-là, de circuits courts, avec l'Assomption, on a mis en place un projet d'alimenter leur cuisine. La cuisine de ce centre qui produit entre 800 et quasiment 500 repas par jour aujourd'hui en fonction des périodes scolaires ou non et touristiques ou de pèlerinage. Et donc l'idée est à terme d'alimenter cette cuisine en 100% bio et local Alors attention, bio, ça ne veut pas toujours dire très propre et local. Donc voilà, faire attention à ces petites choses. Mais voilà, et donc dans ce cadre-là, moi j'ai consacré 50% de la production des jardins, qui correspondent entre 5 et 7 tonnes de légumes par an, à l'alimentation de cette cuisine. Et donc c'est un projet qu'on démarre depuis le mois d'avril, en gros, enfin de toute la saison là. Et voilà, et qu'on mène de front avec le chargé de projet de la mission Assomption, les cuisiniers de la cuisine, les responsables de la maison, et les sœurs, et les gens qui mangent et qui nous font des retours. Voilà.
Et alors justement, puisque là, c'est un projet qui démarre, qui se pose aussi dans le temps et dans la durée, donc j'imagine que ça va impacter votre organisation sur le futur, sans doute vous faire gagner un peu de temps par rapport aux AMAP et par rapport au temps que passe la commercialisation de vos produits. Et puis en même temps, ça vient aussi tout simplement venir alimenter et vous mettre en ligne avec vos aspirations et avec votre foi, tout simplement.
Alors oui, il y a beaucoup de choses là. effectivement, donc il y a le fait d'aller livrer la cuisine avec des cuisiniers qui s'engagent à s'adapter en fait à la semaine ou deux semaines ou trois semaines en avance sur la production en cours et à adapter leur menu. Donc ça a un impact effectivement sur le temps de commercialisation. Qui est plutôt positif pour moi. Moi, avant, je commercialisais un petit peu sur les marchés, restaurateurs, à la ferme et sur différents points cagettes en collectif avec d'autres producteurs, sur Lourdes, sur Argelès et des épiceries associatives aussi au Pays Toy. Et là, donc, j'ai gardé les ventes à la ferme, qui se passe aussi, tu as parlé du Covid, ce qui est un outil qui a été développé pendant le Covid. Et donc j'ai 50% de la vente qui se passe à la ferme, la commercialisation, et le reste, donc, maintenant, qui part sur le centre Assomption. Et donc là, effectivement, il y a un gain de temps et il y a effectivement une modification de planning. Et c'est là qu'il faut rester vigilant parce qu'on pourrait très vite passer à de la production en demi-gros qui intéresse la restauration collective, à savoir de la pomme de terre, du chou, de la courge, du poireau, des carottes et des oignons et des salades, et en rester là et en oublier la biodiversité cultivée et certains légumes de type roquette, choucal, blette, des choses qui vont être assez productives sur notre territoire de montagne et parfois contraignantes pour les cuisiniers ou parfois juste oubliées par les consommateurs aussi ou avec des goûts nouveaux. Et voilà, donc il faut rester vigilant à pas non plus modifier complètement les plannings de culture pour rester sur une agriculture paysanne et sur une agriculture résiliente, parce que quand on cultive 5 légumes, si on a une mauvaise saison sur 3 légumes, eh ben on a perdu 65% du chiffre d'affaires. Quand on est sur 50-55 légumes, ben quand il y a une saison qui se passe mal sur 20 légumes, ben on a encore 70-80% de la production.
Et alors j'ose dire, puisque j'écoute le discours là, ça veut dire aussi que la relation avec le cuisinier, celui qui fait tous les jours les menus et qui cuisine tous les jours les repas, est là du coup très importante, non?
Alors le cuisinier, c'est la clé de voûte du projet, c'est la pierre d'angle, la pierre angulaire. Et donc effectivement la relation est primordiale avec lui et avec toute l'équipe avec qui on a des commissions de restauration chaque mois. Et la relation se tisse avec le cuisinier petit à petit parce que il a beaucoup de boulot en cuisine, j'ai beaucoup de boulot au jardin. Donc on a pour projet de se rencontrer au jardin avec non pas le cuisinier mais toute son équipe en fait, toutes les personnes qui sont en cuisine. Et qui viennent découvrir aussi cette forme d'agriculture parce que ils sont un peu les maîtres d'œuvre en cuisine. Mais peut-être que pour eux, maraîchage bio et maraîchage bio paysan de montagne, c'est la même chose et ça ne l'est pas forcément. Et du coup, de venir comprendre en fait pourquoi tel ou tel légume ne peut pas arriver en cuisine, pourquoi certains oui, quelles sont les contraintes en fait chez nous. Et petit à petit, voilà, de tisser ça, mais ça démarre super bien et on voit sur les visages et dans ce que dit Kevin et également Aurélien et les autres collègues de cuisine qu'en fait ils sont très contents de travailler enfin, de retrouver des produits bruts en cuisine, de retrouver du goût, de retrouver de la couleur et du travail, et pas d'être simplement des réchauffeurs mais d'être enfin des vrais cuisiniers, de faire le travail pour lequel ils se sont engagés, quoi.
Oui, ils retrouvent le fondement même de leur métier, en fait, hein, tout simplement. Et alors, donc, effectivement, la deuxième partie de ma question, elle était plus en rapport, en fait, avec l'écologie intégrale, Laudato si. Et comment un homme comme toi, qui est à la fois très respectueux de la création, en fait, ce projet répond aussi à tes valeurs et à tes engagements.
Oui, alors là, c'est très personnel, et vu qu'à l'intérieur, c'est toujours en questionnement, je crois qu'il faut toujours être en recherche et jamais s'arrêter à ce qu'on croit, même si on a un cadre qui est facilement prédéfini. Donc oui, j'ai envie d'être en lien avec quelque chose qui est plus grand que moi et qui m'attire. Certains parleront de Dieu, de source d'amour. Et je reconnais cette présence dans tout le vivant autour de moi, et donc dans ma manière de cultiver aussi, et dans la manière dont sont également transformés et mangés mes légumes. Quoi. C'est pas uniquement ma manière de travailler, puis ensuite je vends mes légumes à des gens qui en font n'importe quoi. Ça peut arriver. Et donc ce lien au vivant est très fort, et du coup dans les vivants il y a aussi des personnes humaines qui m'entourent, et donc c'est nourrir ce lien avec ces personnes là aussi. Il y a la relation avec moi-même qui est en fait parfois peut-être la plus compliquée, on croirait pas, mais en fait c'est savoir se mettre en relation avec les autres, c'est déjà être capable de ces relations là et donc voilà, donc ça c'est tout un chemin, moi personnellement, dont je vous passerai les détails, mais voilà, on avance avec nos défauts, nos casseroles, notre vécu, mais c'est un chouette chemin. Et petite anecdote, là je parlais tout à l'heure avec une amie qui a un projet pour accompagner les collectifs, les associations en termes de communication et de relations personnelles justement, mais de manière assez profonde, pas seulement de la CNV et des outils de développement personnel, mais en allant beaucoup plus profondément. Et en fait, quand il y a un conflit, que ce soit en soi ou que ce soit dans la relation à l'autre, en fait, que ce conflit soit toujours une opportunité d'avancer et jamais juste en fait une zone rouge, quoi. Et voilà, donc ça va être pareil dans le travail avec les autres, dans la relation avec plus grand que soi, qui parfois est un peu compliqué. Des fois, ça répond pas trop là-haut, quoi. Enfin, là-haut ou en bas, vraiment, des fois, on se sent un peu seul face à l'absolu, quoi. Voilà.
Merci Aurélien. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le circuit court, en tout cas en t'écoutant et en vous écoutant, c'est plus que l'expression du commerce en fait. Hein. C'est vraiment d'abord et avant tout du lien social. Dans le contexte, c'est aussi un ancrage très fort, territorial, et c'est surtout pas un repli. Il est clair que, enfin moi je le partage aussi, hein, je crois qu'on parle de plus en plus de démocratie alimentaire. Mais cette démocratie alimentaire, elle passe peut-être avant tout aussi par justement ce regard sur les circuits courts, et puis la volonté d'accompagner ces développements. Et puis en même temps, c'est aussi la reprise en main du système alimentaire d'une façon beaucoup plus large par les citoyens, hein, puisque eux-mêmes, ils doivent contribuer à décider des orientations. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont plein de façons d'agir, par leur façon de consommer, par leur façon de manifester leurs besoins et leurs attentes, par leur façon d'agir eux-mêmes sur leur jardin ou sur les terres agricoles lorsqu'ils sont agriculteurs. Et puis aussi en tant que parents, parce que les enfants, il faut aussi leur apprendre un petit peu tout ça. Il faut leur dire aussi l'importance du local, l'importance du bio, l'importance de la création. Et donc tout ça est un cheminement très important, une expérience très importante. Et effectivement, on continuera ces émissions hein, sur l'alimentation et les circuits courts, parce que je crois que c'est important de partager ça avec vous, chers auditeurs, de réfléchir ensemble, hein, c'est un peu l'idée, de réfléchir ensemble sur justement qu'est-ce qui se joue dans tout ça et qu'est-ce que chacun, d'une façon simple, peut faire pour faire avancer effectivement ces enjeux-là. En tout cas, Aurélien, merci infiniment. Je sais qu'il y a beaucoup de travail, qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà, et merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup Benoît. Si je peux juste ajouter une petite chose, je sais que ton intitulé d'émission s'appelle maintenant les circuits courts et ça a été annoncé comme ça. Mais en fait, si on parlait de circuits normaux en fait, parce que c'est le circuit normal d'un produit agricole de terroir et de paysan, c'est qu'il soit en fait mangé localement. Et alors sauf sur des choses comme on l'a dit tout à l'heure, sauf sur des choses exceptionnelles. Mais donc en fait, c'est un peu comme l'agriculture bio, en fait on paye un label pour être en agriculture biologique, alors qu'en fait ceux qui travaillent en agriculture dite, enfin chimique, qui n'est pas dit, en fait devraient payer un label pour une agriculture chimique, et, ou conventionnelle, ou je sais pas, et qu'en fait l'agriculture bio devrait être considérée comme agriculture normale, quoi. Et ensuite sur la reprise en main par les citoyens, effectivement donc on peut consommer localement, soutenir nos paysans, etc. Donc ça, il y a plein de petites initiatives qui se créent à droite à gauche. Ça fait déjà pas mal d'années. Les AMAP, c'est quasiment 30 ans maintenant. Et donc on a plein de petites initiatives qui se créent. Et là, en fait, il est temps d'aller plus loin et que les citoyens s'engagent, non pas seulement dans leur manière de consommer, mais en fait dans leur manière d'agir. Je parlais de politique tout à l'heure au sens de la cité, quoi. De s'engager dans la cité, il y a les municipales qui arrivent. Et en fait, d'aller dire, en fait, nous, on est d'accord de voter maintenant, mais en fait, on veut que vous, les politiques, vous vous engagez avec les paysans, avec l'environnement, avec l'air qu'on respire, avec ce qu'on mange, avec l'eau qu'on boit. Et qu'en fait, on peut plus, quoi. On peut plus nier le lien, en fait, entre les maladies sanitaires, l'hygiène, enfin, voilà, la santé nationale, en fait, et la carotte qu'on mange, quoi. Il y a un lien qui est direct au niveau moléculaire. Et voilà, et donc je vous invite à écouter les prochaines émissions où il y aura peut-être des invités qui font partie du nouveau collectif Alimentation, Agriculture et Territoire 65.
Merci infiniment Aurélien, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.
Et ce sera avec grand plaisir vendredi prochain aux alentours de 12h05, comme tous les vendredis d'ailleurs. Merci Benoît Guillard. Une émission que vous pouvez trouver sur le site internet de la radio, radioprésence.com.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie et je chante. À vos genoux, vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges, et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime.
Bien sûr, c'était Laurent Voulzy sur Présence.
Présence à Toulouse, 97.9.
Allez, nous retrouvons le frère Martin de l'abbaye de Tournaille dans le département des Hautes-Pyrénées qui nous présente le livre de la semaine. Il s'agit d'une rediffusion, vous l'entendrez, nous sommes au printemps, au mois d'avril. Il est au micro de Anne-Rose Jankovic.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose, bonjour chers auditeurs.
Merci de nous retrouver pour une nouvelle chronique littéraire. Vous qui êtes frère bénédictin à l'abbaye Notre-Dame de Tournai. Et cette semaine, vous avez choisi de nous parler d'un roman, Avril enchanté, de Elisabeth von Arnim. C'est un roman plutôt original et qui n'est pas religieux cette fois-ci, contrairement au roman que vous nous aviez présenté la dernière fois. Pourquoi avez-vous choisi cet ouvrage, ce livre ?
Mais d'abord, avec le titre Avril enchanté, on est au mois de mai, et donc
ça fait rêver.
Il y a beaucoup de descriptions de nature, comme ce livre se passe en Italie, donc la saison est un peu plus avancée en Italie. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de descriptions de nature qui, dans ce livre, correspondaient à ce que on pouvait avoir sous les yeux en ce moment. Et j'ai retenu ce livre dans les sorties parce que c'est une nouvelle traduction. La première traduction était plus ancienne, donc je pense qu'il y a des mots qui sont plus adaptés à notre langage. Et parce que j'aime bien aussi l'Angleterre, et donc, comme les principaux personnages vivent dans l'Angleterre, bon, ça a attiré mon attention. Et par curiosité, je suis allé vers ce livre, je l'ai lu et j'ai trouvé qu'il y avait matière à le partager avec vous.
Alors, vous allez nous dire tout ça aujourd'hui. En préparant cette chronique, vous m'avez dit qu'il y avait aussi un lien avec un texte du pape François, entre ce roman et un texte du pape François qui vous a particulièrement interpellé. Est-ce que vous pouvez en dire plus ?
Oui, le pape François a écrit un texte sur la littérature dans la formation. Et j'ai une formation, il se trouve, littéraire, et donc j'ai été très interpellé. Le pape nous dit que, en fait, même si on ne lit pas un livre strictement religieux, à travers un roman, à travers un récit, à travers un documentaire, vous voyez, à travers un livre qui nous parle d'un roman historique, oui. un livre même qui nous, un livre d'histoire, de géographie, eh bien, il y a quelque chose qui tout le temps rejoint notre vie, rejoint ce que nous sommes et qui nous aide à avancer. Le pape François dit dans le texte que la littérature découvre en nous des abîmes, ce qui habite le cœur de l'homme, et la révélation et la théologie vont s'en emparer pour montrer comment le Christ vient habiter, traverser et illuminer ces situations humaines. Et tout seul, si déjà nous ne pouvons pas nous émouvoir devant une situation humaine, le pape dit... Comment serions-nous dans l'incapacité de nous émouvoir devant Dieu si déjà je ne peux pas m'émouvoir devant la création et devant les autres êtres humains ? Et à travers la littérature, donc, la tâche est donc de me guérir et d'enrichir ma sensibilité pour être plus ouvert finalement donc à l'expérience avec le Seigneur.
Voilà, et c'est une expérience que propose ce roman, Avril enchanté. Alors, c'est l'histoire de deux femmes. Alors, on est à Londres, hein, dans l'hiver de Londres, vous nous l'avez dit. C'est l'histoire de deux femmes qui vont mener en quelque sorte un voyage. Expliquez-nous.
Eh bien, c'est deux femmes qui mènent un train de vie très organisé. Surtout, vous voyez, dans la société anglaise, il y a au moins un peu plus d'un siècle. Elles sont dans un club et chacune mène une vie qui ne les épanouit pas complètement. Voilà, elles sont dans un train-train.
Elles sont pas heureuses.
Une routine et elles sont pas tout à fait heureuses, c'est l'hiver. Alors donc, pour ceux qui sont allés à Londres, quand il y a quelques jours de petits crachins où on voit, il y a très peu de luminosité, et elles voient une annonce dans un journal d'une personne qui loue et prête sa propriété pendant un mois en Italie pour aller découvrir le printemps. Et donc, il se passe quelque chose en elle et elle décide toutes les deux de mettre suite à cette proposition, de contacter la personne. Et puis donc il y a un problème d'argent parce qu'elles veulent le faire avec leur argent à elle. La femme à l'époque ne travaille pas, elle doit dépendre de son mari. Donc il y a tout un enjeu aussi de préparation financière. Et donc pour les aider à payer cette location, elles vont faire appel à deux autres personnes, un peu originales aussi, qui vont les accompagner dans cette expérience.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, elles peuvent organiser leur voyage, donc, elles s'en vont,
voilà,
et tout va changer.
Elles arrivent à l'organiser. Alors, ça se passe pas très facilement. Bon, elles arrivent à convaincre leurs époux respectifs. Et le voyage est un peu compliqué. Et quand elles arrivent, elles ont la stupeur de découvrir que les deux dames invitées sont déjà arrivées avant elles.
Ah.
Alors elles pensent que c'est tout organisé, et en fait les meilleures places de la maison sont prises. Alors la première partie, là, quand on arrive en Italie, c'est intéressant comment chacune des quatre femmes va essayer de prendre son espace, et chacune veut son espace réservé.
Ah.
Et ça, c'est très intéressant à voir. Alors, il y a la découverte du lieu qui est aussi... Alors, il y a des descriptions. C'est à tout près du golfe de Gênes. Il y a la mer qui est au pied de ce vieux château. C'est un endroit magnifique. Et il y a à la fois, voilà, chacun qui n'arrive pas à communiquer l'un avec l'autre et qui veut se réserver son espace. Et à la découverte de ce paysage, petit à petit, les personnages les uns après les autres vont changer.
Donc c'est un peu un laboratoire où on observe les relations entre ces quatre personnages.
Voilà, tout à fait. Et quatre personnes qui, chacune en elles, ont envie de changer parce qu'ils ont invité une autre dame aristocrate, plutôt une jeune, qui veut faire la coupure avec toutes les rencontres qu'elle a. Elle veut être tout le temps seule, à part. Et elles ont invité une très vieille dame, qui elle aussi avait beaucoup de relations, et qui veut vivre un temps tout seule aussi, et ne voir personne.
Donc chacune de ces femmes, qui sont très différentes, et qui ont des parcours de vie différents, ont un point commun, c'est qu'elles veulent changer quelque chose à leur vie.
Oui, voilà, elles veulent faire une coupure, et elles sont petit à petit rattrapées dès le deuxième jour. Il y a Rose Arbuthnot qui déjà s'ennuie et qui va commencer à inviter son mari parce qu'elle a besoin finalement de partager avec lui. Quoi. Et donc petit à petit, ça va s'enchaîner. Chacune va vouloir inviter quelqu'un. Il y a le propriétaire qui va venir par hasard juste pour passer une nuit parce qu'il va à Rome. Finalement, il reste. Et puis au contact, le mari arrive. Donc même la Lady Caroline, l'aristocrate, qui est tout seul, tout ça, ce monde va changer. Et même la vieille dame qui est complètement à part, elle aussi, progressivement, elle fait un changement.
Alors, cette histoire, quel genre de roman est-ce? Est-ce que c'est plutôt... Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est plutôt intriguant? Quel sentiment va nous laisser ce roman?
Et il y a beaucoup de poésie, d'abord, je dirais, avec les descriptions. Et puis, c'est un roman avec quand même une intrigue qui bouge, puisque... Il se passe toujours quelque chose.
Il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de meurtre à Gênes.
Il n'y a pas de meurtre. Mais le déroulement du séjour est toujours contrecarré par quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce qu'on attend. Et donc, il y a toujours un déroulé là qui est.
C'est pour ça que vous disiez au début qu'on peut tirer en quelque sorte des leçons de quelque ouvrage que nous lisons.
Oui, et surtout d'une situation figée. Ouais. Je m'ennuie et j'essaie de faire quelque chose pour remettre en question, prendre de la distance. Ouais. Et finalement, elles sont ramenées à leur quotidien et tout de suite il leur manque loin de chez elles et surtout le fait d'être ailleurs, elles vont chacune revivifier la relation avec leur mari et les gens qu'elles côtoient.
Quel public peut lire ce roman?
Au tout public.
À partir de quel âge?
À partir du moment où de 14, 15, 16 ans, oui. Après. C'est aussi très très intéressant, quoi.
La maison d'édition, peut-être un mot sur la maison d'édition.
Alors donc c'est aux éditions J'ai lu et c'est dans Livre de Poche, donc c'est tout à fait transportable. C'est pour ça, c'est un roman de détente, mais qui peut nous inviter à une vraie réflexion, voilà, sur comment est-ce que une situation peut m'amener à changer. Et si je suis dans une routine, il y a peut-être quelque chose qui peut m'inviter à revivifier.
Quoi. Et en plus, il y a une espèce de ode à la création qui nous transporte.
Ah, tout à fait. On a très envie de partir et d'aller voir le lieu en vrai.
Bon, alors si on veut changer d'idée, partir en vacances, on peut déjà se mettre l'eau à la bouche.
Attention, parce que ça va vous remuer.
Merci beaucoup, frère Martin. À bientôt pour une nouvelle chronique avec un nouvel ouvrage.
Merci à vous. À bientôt.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence dans la Cité Mariale, 96.
Et dans la Cité Mariale, nous y sommes, puisque c'est depuis les studios de Lourdes que ce Présence Midi vous est présenté. Un Présence Midi qui, dans quelques instants, nous amènera à découvrir Christophe Manceau. Il sera au micro de Anne Deslois pour sa chronique Solidairement Vôtre. Et puis, nous découvrirons quelques écrits de Georges Sand qui a écrit sur notre belle région, en l'occurrence l'Occitanie. C'est à suivre dans quelques instants. Mais je vous propose dès maintenant de faire un point sur l'actualité avec le journal de la mi-journée qui nous est présenté par Éric Leclerc.
«
Bonjour. Incarcéré depuis le mois de septembre en Russie, soit 45 jours, le lotois Sofiane Sihili vient d'être libéré. Il avait été récemment condamné pour avoir franchi illégalement la frontière russe alors qu'il circulait à vélo. Parti début juillet à vélo depuis Lisbonne, il souhaitait traverser 17 pays pour atteindre Vladivostok. Le calme est revenu après le passage de la tempête Benjamin hier sur la France. L'Occitanie n'a pas été épargnée. Arbres couchés sur la route, aucun trafic de train entre Brive-la-Gaillarde et Rodez. Trains circulant ralenti entre Pau et Tarbes. Certaines villes avaient fait le choix de fermer les parcs par mesure de sécurité. Le vent a soufflé fort par endroits comme à Tarbes avec une rafale à 100 km/h. Régénération de la ligne entre La Barthe et Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Jusqu'au 2 novembre, SNCF Réseau réalise des travaux de renouvellement de composants de la voie et régénère des ouvrages d'art et des ouvrages hydrauliques entre Lannemezan et La Barthe pour pérenniser la circulation sur la ligne. Cette ligne génère un trafic de 650 wagons de marchandises par an, soit l'équivalent de 1300 camions, essentiellement en desservant l'usine Arkema. Ce chantier mobilise 60 agents chaque jour et permet de renouveler 5500 traverses, 9000 tonnes et 6000 mètres de rails, dont une partie est issue de l'économie circulaire. On connaît depuis hier le programme qui attend les coureurs du Tour de France l'année prochaine. Les coureurs passeront dans notre région entre le 6 et le 9 juillet avec 4 étapes. Tout d'abord le lundi 6, Granollers en Catalogne-les-Angles. Mardi 7, Carcassonne-Foix. Mercredi 8, Lannemezan-Pau. Et jeudi 9 juillet, Pau-Gavarnie-Gèdre. À présent, direction les Pyrénées et plus précisément la Haute-Garonne. Voici les dates d'ouverture prévisionnelle des stations de ski aux Garonnaises. Luchon Superbagnères du 5 décembre au 29 mars. Le Mourtis du 5 décembre au 22 mars. Bourdouaille pendant les vacances de Noël et d'hiver. Et la station de Peyragude du 6 décembre au 29 mars. Le théâtre de Cahors soutient la création en accueillant lors de chaque saison culturelle des compagnies locales et régionales en résidence, favorisant rencontres avec le public et accompagnement artistique. Les compagnies bénéficient d'un espace pour répéter mais aussi d'un accompagnement professionnel sur mesure. Ces moments de création aboutissent à des sorties de résidence, des représentations gratuites et ouvertes au public, l'occasion pour les spectateurs de découvrir en avant-première ces spectacles, d'échanger avec les équipes artistiques. Après avoir passé une semaine en résidence d'artistes, deux compagnies présenteront leurs spectacles, deux programmations en entrée libre pour le public. Tout d'abord, Au-delà par la compagnie à fleurs de prose ce soir à 18h30 et puis Péri le soleil par la compagnie Poule Prod vendredi 31 octobre à 18h30.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Solidairement Vôtre, où vous le savez, nous donnons la parole à celles et à ceux qui font vivre la solidarité, la fraternité et surtout vivre la solidarité, c'est vrai je le dis, mais au quotidien. Alors notre invité aujourd'hui est Christophe Manceau. Bonjour Christophe.
Bonjour Anne, bonjour à tous et à toutes.
Alors certainement que certains de nos auditeurs vous connaissent Christophe, puisque depuis 1999, vous avez été ordonné diacre pour le diocèse de Tarbes-Lourdes.
Oui, c'était à Haussin et ça fait 25 ans.
Et c'était avec quel évêque déjà, il y a 25 ans ?
C'était Monseigneur Perry qui m'a ordonné.
D'accord. Nous allons faire un petit tour d'horizon parce que il y a quelque temps, Monseigneur Mika vous a donné la responsabilité du pôle diaconie pour le diocèse. Nous aurons l'occasion de faire une émission spéciale pour découvrir le service de la diaconie. Aujourd'hui, Christophe, c'est plus votre témoignage personnel, votre témoignage professionnel et votre témoignage de foi que nous allons entendre. Commençons déjà peut-être par votre parcours de vie. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené à être diacre ?
Alors, ce qui m'a amené à être diacre, mais d'abord, c'est un chemin de un petit sentier, je dirais, de joie, de difficulté et puis d'irrégularité. Parce que le Seigneur écrit droit avec des lignes courbes. Mais ce que j'ai essayé de prendre au sérieux, ben c'était mon baptême. Voilà, c'est un peu moi le socle, petit à petit, hein, ça s'est fait. Et puis une attention particulière à l'Évangile, cette parole unique qui nous est adressée et réservée à chacun. Déjà au catéchisme, quand j'étais petit, c'était l'époque des questions-réponses, mais quand on me parlait de la vie de Jésus, de ses paraboles, tout ça, ça m'intéressait, ça m'accrochait.
C'est quelque chose qui vous touchait particulièrement.
Voilà, déjà tout petit, voilà.
Mais vous n'aviez pas spécialement formulé l'envie de devenir prêtre quand vous étiez petit ou plus grand, adolescent? Alors, c'était pas ça qui vous attirait?
Alors, à un moment donné, si, je me suis quand même posé la question, mais de façon assez courte. Je me suis demandé si la prêtrise ou être frère des écoles chrétiennes, parce que j'avais été dans des établissements lassalliens. Voilà. Mais je me souviens, c'était dans le Tarn, on était trois jeunes, et moi, de mon côté, j'ai décidé de, non, c'était pas ma vocation.
Alors, voilà. Maintenant, vous êtes retraité, mais professionnellement, quel a été votre parcours assez rapidement?
J'ai été, au départ, je suis soignant. J'étais infirmier. Après, je suis devenu cadre de santé. Et voilà, donc j'ai travaillé à la clinique de Lormeaux, à l'hôpital de Lourdes, à l'hôpital d'Astugues. Et puis, à la fin, j'étais un peu sur tous les hôpitaux du département, parce que je travaillais sur la protection des données des malades.
Alors, dans votre vie quotidienne, aussi bien du temps où vous étiez encore professionnel de santé, mais aussi en tant que père de famille, époux, maintenant grand-père aussi, comment vous avez toujours concilié votre engagement de diacre et votre vie? Votre vie de famille, votre vie professionnelle?
Alors, la vie de famille était quand même, pas première, mais était importante. Le sacrement de mariage, il était premier. Voilà, donc... et puis, la vie professionnelle me prenait beaucoup de temps aussi. Donc, c'est vrai que c'était un peu difficile de gérer tout ça, mais on faisait au mieux. Et puis, en plus, je travaillais dans des établissements publics. Avec voilà une certaine réserve, voilà, mais ce qui m'empêchait pas de témoigner, parce que ça savait que j'étais diacre. Pour une petite anecdote, en pleine intervention chirurgicale, le médecin m'a dit « Alors, monsieur Mansou, vous croyez en Dieu ?» Voilà, on avait... En plus, c'était pose d'un pacemaker, donc le patient était conscient. Donc voilà, on a eu un petit échange court, parce que je voulais pas... voilà.
Et je suppose que lorsque vous avez accepté de devenir diacre, eh bien votre épouse était aussi de la partie. Ça veut dire qu'elle avait fait aussi ce cheminement avec vous, elle vous a accompagné, quelque part elle vous a aidé aussi à dire oui.
Tout à fait. Quand j'ai commencé à me poser des questions, des petites questions sur le diaconat, j'ai exposé à mon épouse... ce petit projet, à l'époque, il était tout petit. Elle l'a reçu tout à fait sereinement. Et du coup, quelque temps après, j'ai été voir mon curé de paroisse pour lui dire, en pensant qu'il allait me dire « Reviens dans 6 mois, non, mais... » Il me dit « Non, non, va voir ton évêque de suite. Ça va lui faire plaisir, ça va lui changer de... » Voilà. Et donc... Bon, j'ai attendu un petit peu quand même, parce que je ne m'attendais pas à cette réponse, et puis j'y suis allé.
Et à ce moment-là, vous aviez déjà un engagement au niveau de la vie de la paroisse ou d'un mouvement au service d'église?
Oui, avec
Personnellement, vous aviez déjà un engagement quand même.
Oui, avec ma femme, on avait fait le catéchisme tous les deux. On avait fait, voilà, j'étais très investi dans le scoutisme, voilà, il y avait plein de choses que je faisais.
C'était assez naturel, disons, d'aller, du coup, d'accepter de devenir diacre à un moment donné.
Voilà, en tous les cas, de se poser la question et de remettre tout ça dans les mains de l'Église. Je me disais, si ça doit se faire, ça se fera, et peut-être pas.
Et voilà, c'est bien. Et alors, vous avez été aussi, pendant quelque temps, aumônier de la maison d'arrêt de Tarbes.
Oui.
Alors ça, c'est un service, une mission très très forte, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu auprès de ces personnes qui vivent quand même dans un milieu très fermé?
Voilà, j'étais bénévole, aumônier bénévole. J'étais avec Elisabeth Lemire, qui était l'aumônier titulaire. Voilà, et pour moi, c'est quelque chose auquel j'avais pensé depuis longtemps, mais j'hésitais beaucoup. J'avais une petite appréhension, peut-être. Et le fait de rencontrer Elisabeth, eh ben, j'ai emboîté le pas et elle m'a accompagné. Et c'est vrai que j'ai vécu des choses très fortes, belles, mais très fortes, parce que c'est quand même un monde où il y a quand même de la violence. Oui. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et voilà, qui m'a remis. Et bien souvent, je me suis dit, si tu avais vécu ce qu'ils ont vécu souvent dans leur enfance, peut-être que tu serais à leur place. Mmh. Voilà.
Alors, c'était dans le cadre de l'aumônerie catholique. Vous aviez des rencontres mensuelles ou plus régulièrement? Comment ça se passait, le lien avec les détenus qui souhaitaient faire partie de ce groupe de l'aumônerie?
On les invitait tous les dimanches à soit une rencontre, soit la messe. Et voilà. Donc, moi, j'ai fait très, très peu de parloirs, des rencontres, voilà, puisque je travaillais. Mais par contre, tous les 15 jours à peu près, on avait un roulement par équipe de deux et on se retrouvait avec ces personnes.
Donc on imagine des partages d'évangiles, voilà. Des choses assez prenantes, quoi.
Voilà, alors façon. Bon, des fois ça décoiffait un petit peu, hein. Mais c'était. Il y avait une démarche.
Oui. Vous pourriez nous dire qu'est-ce que ces rencontres ont changé un petit peu en vous, dans votre regard sur la vie?
Ce que ça a changé sur moi, c'est plutôt le regard sur les plus démunis. Voilà, une certaine. Et à leur contact, peut-être gagner en humilité. De les rencontrer, ben, ça vous remet en cause et ça vous fait gagner en humilité, oui.
Est-ce que dans votre ministère diaconal, il y aurait un moment marquant, là, ça fait plus de 25 ans que vous êtes diacre, dans un quart de siècle, est-ce qu'il y a un moment particulier qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment, vous pourriez partager avec les auditeurs?
Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un. J'étais ordonné le samedi, et le lundi, bien sûr, je travaillais. Et donc, je suis revenu au boulot. Et lorsqu'on est soignant, on est entraîné dans une course un peu effrénée. Et je me disais intérieurement, en allant travailler, Seigneur, laisse-moi prendre un peu mes marques en tant que diacre maintenant. Ça faisait 48 heures que j'étais diacre. Et donc je suis arrivé, je travaillais en réanimation à Lourdes. Et dans le service, il y avait un monsieur, un pèlerin, qui était venu exprès sur Lourdes et qui malheureusement a fait un accident vasculaire massif devant la grotte. Voilà, et donc il s'est retrouvé dans notre service pendant plusieurs semaines, sous respirateur. Il était endormi, sédaté, comme on dit. Voilà, et malgré plusieurs ajustements thérapeutiques, eh bien, toutes les tentatives de sevrage de ce respirateur ont été un échec. Et donc, avec un consensus médical et en accord avec la famille qui était très, je dirais, presque sereine, eh bien, il a été décidé d'arrêter les thérapies, et voilà. Et donc, le lundi matin, eh bien, je me suis retrouvé à accueillir cette famille et à les conduire dans cette chambre pour qu'ils disent au revoir à leur papa, à leurs parents. Et puis, on a prié ensemble. On s'est tourné vers Marie, puisque lui avait fait une démarche mariale. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, j'ai fait quelque chose que je ne pensais pas faire. J'ai ôté toutes les alarmes pour que ce soit un peu moins stressant pour la famille. Et j'ai arrêté le respirateur. Voilà. Et pour moi, ça a été une expérience très forte et très. J'avais envie de dire après au Seigneur, ménage-moi un peu, Seigneur, parce que là, tu vas fort là. J'étais en plus dans un service de réa, tout est vitré. l'équipe, on savait que j'étais en démarche. Ils savaient peut-être pas que j'avais été ordonné 24 heures avant, mais ils connaissaient mes convictions. Et donc, même si l'équipe s'est fait très discrète, ils nous ont vu prier, ils nous ont vu, voilà. Et ça a été pour moi un moment assez fort, oui. C'est, voilà.
Merci Christophe pour votre témoignage si émouvant. Nous avons bien conscience que tout au long de votre vie professionnelle, tout en étant justement avec vos convictions de diacre, vous avez dû vivre des moments très forts et accompagner des familles dans des moments pas faciles. Merci. Alors, notre émission se termine. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle émission sur la diaconie du diocèse. À très bientôt.
Merci Anne.
Voilà, une émission proposée par Anne Deloye. Nous la retrouverons dès la semaine prochaine. Dans l'immédiat, je vous laisse en compagnie de Sting en duo avec Mélodie Gardot, juste avant de retrouver Catherine Albrecht. I'm everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I want to meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as da-di-da-di-da. We could keep it simple as don't. Stop thinking about it, thinking about it.
We could be a little something. The melody you keep on humming. A feeling so sweet and subtle. The last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. What you gonna lose in the heat of the moment? We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it.
We could be a little something. We could be a little something.
We could be a little something. We could be a little something.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
L'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Georges Sand. De la jeune Aurore du Devant, découvrant émerveillée les Pyrénées en 1825, jusqu'à l'écrivaine confirmée, demandant en 1872 à Gustave Flaubert en voyage à Luchon s'il irait à Gavarnie au lac de Gaube, l'œuvre de Georges Sand fait souvent écho à ses jours heureux passés à Cotteret. Depuis ce premier voyage où elle est tombée sous le charme des montagnes et d'Aurélien, elle ne cessera de rappeler à ses amis sa joie et son bonheur de parcourir les sentiers des Pyrénées. Et si sa vie sentimentale fut mouvementée, Georges Sand restera fidèle toute sa vie à cet amour de jeunesse. Aurélien de Sèze était un jeune magistrat bordelais avec qui elle a vécu sa première passion amoureuse pendant ce séjour idyllique à Cotteret. Peu à peu, cet amphithéâtre de montagnes blanches se rapproche et se colore. Enfin, nous sommes entrés dans les Pyrénées. La surprise et l'admiration m'ont saisi jusqu'à l'étouffement. J'ai toujours rêvé les hautes montagnes. J'avais gardé de celle-ci un souvenir confus qui se réveille et se complète à présent. Mais ni le souvenir ni l'imagination ne m'avaient préparé à l'émotion que j'éprouve. Je ne me figurais pas la hauteur de ces masses qui touchent les nuages et la variété de ces adorables détails qu'elles présentent. Les unes sont fertiles et cultivées jusqu'à leur sommet. Les autres sont dépourvues de végétation, mais hérissées de rocs formidables en désordre, comme au lendemain d'un cataclysme universel. La route suit le Gave en remontant son cours jusqu'à Cauterets. C'est en quittant Pierrefitte, c'est en gravissant une montagne inouïe de rapidité pour des chevaux attelés, c'est en entendant mugir le torrent dans toute sa fureur que l'âme se resserre et qu'un sentiment d'effroi insurmontable vient glacer le cœur. Là, le jour devient bleuâtre, de noires montagnes de marbre et d'ardoise où se traîne une sombre bruyère et des arbres nains resserrent le ciel. La route serpente jusqu'au flanc d'une gorge, aux parois d'un abîme. Les blocs se penchent et surplombent. Le précipice se creuse, le Gave s'enfonce et gronde, tantôt complètement disparu sous une masse de sauvage et splendide végétation, tantôt écumant, blanc comme la neige dans les murailles arides qui le pressent ou parmi les rochers qui l'encombrent. Ailleurs, il se rapproche, il s'apaise. Il devient limpide et bleu comme le ciel. Des tilleuls à petites feuilles couverts de fleurs croissent sur ses rives et apportent aux voyageurs leurs têtes parfumées au niveau du chemin. Tout cela m'a paru horrible et délicieux en même temps. J'avais peur, une peur inouïe et sans cause, une peur de vertige et qui n'était pas sans charme. J'étais ivre et j'avais envie de crier. Je suis dans un tel enthousiasme des Pyrénées que je ne vais plus rêver et parler toute ma vie que montagnes, torrents, grottes et précipices. Vous connaissez ce beau pays, mais pas si bien que moi, j'en suis sûre. Car beaucoup des merveilles que j'ai vues sont enfouies dans des chaînes de montagnes où les voitures et même les chevaux n'ont jamais pu pénétrer. Il faut marcher à pied des heures entières dans des gravats qui s'écroulent à tout instant et sur des roches aiguës où l'on laisse ses souliers et une partie de ses pieds. À travers le regard et les mots de George Sand, inspirés par nos belles montagnes, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant ce beau patrimoine. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie » inspirant tous mes récits.
I wanna hold you so long. présence à Foix 100.2.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Audience du pape avec les enseignants et étudiants de l'Institut théologique pontifical Jean-Paul II pour les sciences du mariage, Léon.